ne pensez pas que ce matin, je vais vous apporter des choses nouvelles, plutôt des choses connues. Et sans doute, qu'en les méditant moi-même, pour les partager avec vous, elles ont été nouvelles pour moi, bien que connues. Elles étaient nouvelles et rafraîchissantes. Dans cette période de l'Avent, dont nous avons déjà chanté quelques chants en commençant ce culte, je nous propose de contempler la relation éternelle entre le Père et le Fils. Cette relation qui existait de toute éternité avant que Dieu soit fait chair, que Dieu n'apparaisse sur cette terre en forme d'homme. Et cela est utile pour nos âmes lorsque nous venons devant notre Dieu, devant son trône de grâce, pour raconter ce qu'est son Fils pour notre âme. Un texte que je retrouve dans, c'est celui-là qui a été interpellant pour moi dans ma méditation, que je retrouve dans Genèse 45. Un texte qui se trouve à la période de l'histoire de Joseph. Joseph qui, quand on regarde dans les détails de sa vie, est un type parfait du Seigneur Jésus. Vendu par ses frères, placé en prison, etc. Et nous sommes ici dans ce chapitre, à la fin d'un parcours difficile, où malgré tout, Dieu a changé ce que ses frères faisaient comme mal, Dieu l'a changé en bien pour le salut du peuple, mais pour aussi la bénédiction de la famille de Jacob. Et voilà ce que il nous est dit, alors que la famille, les frères de Joseph viennent là au palais royal où Joseph est installé comme premier ministre, juste en dessous de la tête de Pharaon. Joseph les reconnaît, Joseph leur pardonne. Et voilà au moment où ils vont se quitter, sauf un, et retourner ainsi vers leur père. Voici au verset 13. Ce que Joseph dit à ses frères. Allez raconter à mon père toute ma gloire. Allez raconter à mon père toute ma gloire. Qu'est-ce que nous avons entendu de la parole de Dieu durant cette semaine, qui a fait qu'elle nous a révélé une facette de la gloire du Fils éternel du Père, et qui a tellement étreint notre âme, nos cœurs, rempli nos pensées, que nous venons dans la présence de notre Dieu pour lui raconter la gloire de son Fils bien-aimé. L'apôtre Jean, avec tous les disciples qui avaient côtoyé le Seigneur Jésus, pouvait dire ceci dans 1 Jean chapitre 1er, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, eux ils l'avaient entendu de leurs propres oreilles, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, et que nos mains ont touché, concernant cette parole de vie, cette parole faite chair. Car la vie était manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Nous confessons ce que nous avons vu, et nous annonçons la vie éternelle qui est en elle. Ce que nous avons vu, bien sûr, aujourd'hui, nous ne le voyons plus avec nos propres yeux, mais nous pouvons le contempler au travers de sa parole, contempler la gloire du Fils éternel du Père et l'annoncer aux hommes perdus, mais aussi le proclamer pour la satisfaction du cœur du Père céleste. Alors ce matin, je serai direct, et si je vous tutoie, parce que c'est dans ma nature, sachez que le « tu », je m'y englobe. Alors, qu'as-tu, qu'avons-nous à témoigner devant l'Église et dans l'Église de la gloire du Fils? Qu'avons-nous à raconter à notre Père? Il y a plusieurs textes de la parole de Dieu que je voudrais souligner. Bien sûr, vous pensez certainement à certains textes de l'Ancien Testament qui sont rappelés dans le Nouveau Testament et qui nous parlent de certaines précisions quant au lieu, la date, la période, les événements, comment ils vont se rouler, quant à la naissance du Fils de Dieu. Je voudrais simplement en souligner trois et bien d'autres. Les trois que je vais souligner maintenant contiennent tous un même mot. Je vous laisse deviner. Le premier, celui qui est le centre même de l'Évangile, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils pour toi, pour moi, pour que j'aille au ciel dans sa maison. Le deuxième texte qui comporte, et vous l'avez déjà deviné, le mot de « fils », c'est Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. As-tu eu cette rencontre avec ce Fils bien-aimé parce qu'il est le seul à te révéler son Père? Il est le seul à t'apprendre à dire, comme il disait à une femme lors de sa résurrection, « Mon Père, il est votre Père, et mon Dieu est votre Dieu. » Et puis un texte dont nous avons chanté quelques paroles ici dans le prophète Isaïe, au travers d'un chant bien sûr, où nous avons dit que il est admirable, merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà comment le prophète Isaïe commence ce verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Bien-aimés, comprenons cette pensée divine. C'est le Fils qui est donné. Et il est donné en apparence d'homme. C'est-à-dire qu'il est né comme la plupart des hommes, comme tous les hommes. Il est né dans le sein de Marie, conçu du Saint-Esprit, et il est né comme un enfant. Bien loin de la situation que tout enfant peut connaître. Il est né dans une mangeoire d'animaux, dans une crèche, dans une étable. Qui parmi les parents aurait désiré placer son enfant, son chéri, là où la bave des bêtes était déposée? C'est là où le Seigneur des Seigneurs a été donné pour nous. Plus bas que nous ne sommes. Le Père désire que l'on parle de son fils. Il désire. Mais pour en parler, il faut le connaître. Oui, on le connaît par la parole. Et je suis le premier à vous encourager à lire cette parole. Mais je peux le connaître de manière plus intense, dans une relation vivante avec lui. Oui, je peux le connaître. Allez, j'oserais tenter. Je vais vous poser la question. La dernière fois que vous avez lu votre Bible, ça date du culte d'il y a une semaine, ou c'est devenu un besoin joyeux pour vous de lire cette parole parce qu'elle vous parle de Dieu et de son Fils bien-aimé? Elle vous parle de ce Dieu qui est un et trinitaire, et le Saint-Esprit qui vient à notre secours pour nous faire comprendre qui est le Fils. Si le moment s'y prêtait, pour répondre à cette question, qui est le Fils, connais-tu le Fils de Dieu? Je pense que si le moment s'y prêtait, j'aurais envie de vous laisser la parole, et je pense que chacun pourrait combler cette journée en racontant ce qu'est le Fils de Dieu pour lui. Il est le Fils éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Et pourtant, en tant qu'enfant qui est né, il a eu un début sur cette terre. Son passage terrestre a réclamé une naissance. Mais ce n'était pas le début du Fils éternel. Ce n'était que le début d'une vie terrestre du Fils éternel, caché sous le manteau de l'humanité, caché sous le manteau d'un enfant qui est né dans une étable. En venant dans le monde, il a donc caché sa gloire. Il a été désigné de toute éternité pour être l'agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde. C'est pas quand il était sur la terre que Dieu s'est dit, ah, voici l'agneau de Dieu. Non, de toute éternité, nous avons été rachetés, bien-aimés, de notre vaine manière de vivre, non pas par le sang des boucs et des taureaux, mais par le sang de l'agneau de Dieu, préconnu dès avant la fondation du monde, dans le but que son sang soit versé et que le sang puisse nous purifier de tout péché, pour nous réconcilier avec Dieu que nous avions offensé. Parce que Dieu était en Christ, en l'homme Christ Jésus, qui était cloué sur la croix, en train de mourir à ma place. C'était pas Dieu qui mourait, c'était l'homme Christ Jésus qui mourait pour nous. Et c'est alors qu'en recevant ce don gratuit de Dieu, je reçois gratuitement l'héritage éternel, au point que je deviens héritier de Dieu, parce que fils, je deviens héritier de Dieu et co-héritier de Christ, c'est-à-dire co-participant de ce que quelqu'un d'autre me donne gratuitement par sa grâce. Les richesses de Dieu sont à ma disposition en Jésus-Christ. Il est évident que dans le ciel, nous allons connaître parfaitement. Mais sur la terre, pour le peu que Dieu nous révèle de son Fils, et qui est suffisant pour notre joie, suffisant pour notre salut, suffisant pour notre vie, pour notre relation, pour notre communion. C'est suffisant. Nous sommes invités à le connaître connaître le Père, le connaître lui et celui qui l'a envoyé, parce que c'est recevoir la vie éternelle. Et comme Paul le disait, nous sommes appelés à le connaître parfaitement. Mais en attendant ce jour glorieux de l'éternité, nous sommes invités à grandir puissamment dans sa connaissance. Écoutez ce que Paul disait après avoir parlé de ce projet de Dieu pour lui, pour les hommes, afin de connaître Christ et sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort et dans sa vie. Bien-aimé, est-ce de cette connaissance du Fils éternel à laquelle nous aspirons? Le connaître lui et la puissance de sa résurrection pour nos vies. Après cette introduction, je vous invite à ouvrir un des premiers versets. On n'arrivera pas au bout, hein, je vous le dis tout de suite. Mais j'espère gagner votre curiosité à aller plus loin dans cette connaissance du Fils, parce qu'elle me comble et je voudrais qu'elle vous comble aussi et qu'elle fasse en sorte que des actions d'adoration puissent monter vers le Père Céleste pour ce don merveilleux. Gloire à Dieu pour son don inexprimable. Va raconter, disait Joseph à ses frères, va raconter ma gloire. Eh bien, nous allons en ouvrir un des textes qui raconte la gloire du Fils unique. Et je le trouve dans Proverbes chapitre 8. Il n'y a rien de nouveau, hein, vous connaissez ces textes. Mais voilà, en les reméditant, ça devient tellement quelque chose de frais pour moi, comme nouveau, que je veux vous le partager. Ah, Romains chapitre 8. Voilà. Si on veut gagner du... Proverbe, pardon, oui. Romains 8, non, c'est Proverbes 8. Bien que j'avais Romains 8 sous les yeux, hein, je vous le dis tout de suite, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. C'est le verset que j'avais sous les yeux. Voilà. C'est Proverbes chapitre 8. Et je lirai pour écourter à partir du verset 30. Mais déjà, dans ce proverbe, Salomon nous parle de cette sagesse infinie qui a été établie de toute éternité par Dieu et qui désigne le Fils éternel de Dieu. Et si on prenait, oui, on peut le lire d'ailleurs, au verset 24, « Je fus enfanté ». C'est un mot qui est mal traduit. Que certaines sectes utilisent pour dire que le Fils n'est pas éternel. Et je m'y oppose à cela, parce que c'est falsifier ce que Dieu lui-même est dans sa nature. Et il faudrait, si on allait plonger ce regard dans l'hébreu, il faudrait dire « j'ai été établi, j'ai été désigné », au même titre qu'il a été désigné de toute éternité pour être l'agneau de Dieu. Ici, il a été désigné comme la sagesse de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, Dieu a fait sagesse, ce Jésus, pour nous, pour notre salut. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, quelque chose par là. Voilà, verset 24. « Je fus et désigné, dit le Seigneur Jésus lui-même, le Fils éternel plutôt. » Quand il n'y avait pas d'abîme, point de souche chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus établi. Nos textes enfantés, dommage. Je suis montré. Il n'avait encore fait ni la terre, ni la campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas leur compte ou leur bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Et voici les versets 30 et 31 que je souhaiterais souligner à l'égard de ce Fils éternel qui a été donné pour nous. Voilà ce qu'il a dit. Moi, dit le Fils éternel, j'étais à l'œuvre auprès de lui, auprès de Dieu. Je faisais tous les jours ses délices. Sa joie sans cesse en sa présence. Sans cesse. Pas l'ombre d'une tristesse. Sans cesse en joie. Il continue au verset 31. Me réjouissant en la partie habitable de la terre. Pouvez-vous comprendre que le Fils éternel de toute éternité avait comme projet d'habiter parmi les hommes sur une terre souillée de péché? Je continue, jouant sur toute la terre et trouvant mon bonheur, d'autres versions disent, mes délices parmi les fils de l'homme. Est-ce que nous pouvons sonder ce que le Fils éternel de Dieu vient de proclamer quant à son cœur disposé pour des créatures qui lui tournent le dos? Lui qui n'a ni début ni fin, il accepte de naître ici-bas, sur une terre souillée, et porter le nom de Jésus, c'est-à-dire celui qui sauvera ou Dieu sauve. Malgré cet abaissement profond, il est et restera toujours le seul Dieu béni éternellement. Dans toute l'éternité et lors de la création, il était à l'œuvre avec Dieu. Dans la création visible que nous voyons, mais il était aussi à la création dans les choses invisibles, les anges, les dominations. Et quant à notre rédemption, il a été à l'œuvre pour nous réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, c'est toujours lui qui bâtit son Église. Il est toujours à l'œuvre. C'est toujours lui qui, par sa parole, comme nous lisons ce matin, comme par sa parole, qui la sanctifie, qui sanctifie l'Église, qui désire la rendre propre, qui désire la rendre pure, pour pouvoir rentrer dans le ciel. Il désire qu'elle se revête de robes de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Dans le ciel, le Fils éternel est l'objet de l'adoration des anges. Et quand il prend place sur cette terre comme un bébé, Dieu est obligé de dire aux anges qui sont, qui voient ce qui se passe, et qui ne comprennent rien, Dieu est obligé de leur dire, adorez-le, c'est mon Fils, bien-aimé, il est mes délices, et quand on voit son parcours sur la terre, il restera les délices de son Père, lorsqu'il est au moment où il est baptisé, le ciel s'ouvre, et que dit la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve tous mes délices, tout mon amour, toute ma joie. Sur la montagne de la Transfiguration, le ciel va à nouveau s'ouvrir, alors que l'on voit les disciples, deux des disciples au moins, Jean-Jacques, voit le Seigneur dans sa gloire. La voix du le ciel s'ouvre, et à nouveau la voix du Père se fait entendre, mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Et cet ordre est donné aux disciples. Écoutez-le. Et ce que nous sommes invités à faire, bien-aimés, c'est d'écouter le Seigneur Jésus, nous parler de son œuvre à la croix du calvaire, de son plan parfait pour nous. Il était et reste pour toute l'éternité les délices, la joie de son Père. Un avec lui dans son amour de toute éternité. Unis parfaitement, mais chacun avec des rôles différents. C'est Dieu qui donne le Fils. C'est le Fils qui donne sa vie, qui verse son sang. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la vie du Christ et qui nous conduit dans les vérités de sa parole. Dieu est un, bien que trois, mais Dieu est un. Tout est parfait. Tout est gloire. Tout est amour. Tout est paix. Tout est joie. Pas de péché, bien-aimé, dans le ciel. Comment, moi, pécheur, puis-je aller dans la présence de ce Dieu trois fois saint où le péché n'a pas accès? Comment? Au nom de lire les desseins du cœur du Fils et du Père et du Saint-Esprit. Mais dans le texte que nous avons lu, cela s'adresse au Fils, bien qu'étant un avec le Père et le Saint-Esprit, se réjouissait, aspirait à la joie d'être parmi les hommes. C'était le vœu suprême du cœur de Dieu, qui désirait trouver son bon plaisir en la compagnie des hommes, femmes, jeunes, tous pécheurs, mais qui, dans la repentance, la confession des péchés, reçoivent le pardon gratuit de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce qui nous inonde. Avant la chute, Dieu se plaisait à rencontrer sa créature. Et puis le péché a aboli cette chose. L'homme a été jeté hors du jardin d'Éden, c'est-à-dire, traduit en français, le jardin des délices. Des délices. Et puis pour raccourcir, il y a eu le tabernacle. Pour le désert, avec ses différentes ordonnances, pour nous rappeler comment nous approcher de Dieu. Et puis, il y a eu le temple, lorsque le peuple est rentré dans le pays promis. Et dans ces deux maisons, dans ces deux habitations plutôt, la gloire de Dieu se révélait... Sa présence se révélait par une nuée. Mais lorsque le peuple n'a plus à déshonorer son Dieu, la gloire de Dieu est partie, à la fois sur le tabernacle et sur le temple. Plus de présence. Parce que la sainteté sied à la maison de Dieu. Quand est-elle apparue, cette gloire? Sous l'aspect d'un enfant. C'est Dieu fait chair qui a tabernaclé parmi les hommes. C'est-à-dire Dieu qui a dressé sa tente parmi les hommes. Et en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé comme étant un Père qui désire nous sauver et nous avoir en sa présence. Dieu a voulu, d'une part, que les hommes deviennent des habitants du ciel, à un titre, ah merci mon frère, il est prévenant. Alors, à votre santé. Hein. Dieu a voulu, de toute éternité, d'une part que des hommes pécheurs sauvés par grâce deviennent des habitants, des héritiers du ciel. Et de manière plus élevée que celle des anges. Et d'autre part, son désir, nous l'avons lu dans la parole, c'est que lui-même ait une habitation parmi les hommes. Dieu trouve ses délices dans l'Église. Méditons. Maintenant que le Seigneur est retourné dans le ciel, dans la gloire, Dieu habite en esprit au milieu de deux ou trois qui sont assemblés autour du Seigneur Jésus. Il y trouve sa joie lorsque l'Église se sanctifie. Lorsque l'Église, de manière pratique et avec sa bouche, raconte les gloires du Fils éternel. L'Église présente sur cette terre, toujours en chantier, Dieu trouve-t-il sa gloire en elle? Se réjouit-elle en elle. Le Seigneur Jésus, par son esprit, lorsque nous venons à lui, désire habiter en chacun de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu trouve sa joie, ses délices, en nous voyant vivre ici-bas? Bien-aimés, qui peut comprendre cet amour infini de Dieu? Je le répète, qui donne son Fils bien-aimé pour moi? Qui peut comprendre cet anéantissement de Dieu fait homme? Les anges? Non, ils ne comprennent pas. Ils sont sans comprendre. Bien-aimés, c'est à moi, c'est à nous, pauvres pécheurs d'une race coupable, sauvés par la grâce de Dieu, qu'est donné le privilège de raconter les gloires du Fils par nos vies et par nos bouches. Et c'est alors que Dieu le Père prend son plaisir en nous et au milieu de nous. En méditant ces pensées là-bas, hein, voilà, je ne soulève pas un secret là-bas à la mer, quoi. Hein, on est allé une semaine, voilà, en préparant ces quelques pensées, mon cœur s'est mis spontanément à chanter. À adorer ce Fils éternel. Et les chants qui sont venus, sans doute mon âge qui fait ça, hein, les chants qui sont venus à ma pensée sont été ceux que ma grand-mère m'a chanté alors que j'avais peut-être de 0 à 5, 6 ans. Et ils sont tellement, je pourrais en citer une vingtaine. Mais rentré hier soir chez moi, j'ai vite été rechercher les autres strophes, parce qu'il y en avait dont je ne me rappelais plus. Mais voilà, par cœur, splendeur de Dieu. Ma grand-mère qui chantait ça, un bout de chic comme moi, hein. Splendeur de Dieu parfaite image. Fils éternel des anges adorés, gloire à ton nom, ô toi qui s'en partage, sera à jamais par tous honoré. Est-ce que vous pouvez comprendre l'impact que les paroles d'une grand-mère peuvent avoir dans le cœur d'un gamin de 4 ans? On se dira, mais voilà, il ne comprend rien. Mais si, le Saint-Esprit plaçait au fer rouge ces paroles dans mon cœur. Un autre chant, je trouve ici dans notre cœur, « Toi le Fils éternel, toi bien-aimé du Père, délice de son cœur au suprême séjour. Avant que le temps fût, tu pensais à la terre où tu voulais descendre et t'abaisser un jour. Tous tes plaisirs étaient avec les fils des hommes et tu vins dans un corps par Dieu même formé. Humble enfant, tu naquis plus bas que nous ne sommes. » J'oublie la dernière phrase. Voilà, ceux qui sont curieux, c'est à votre disposition. Il y en a une cinquantaine au moins. Et avant d'aller plus loin, l'heure étant là, voilà, je voulais vous faire écouter un chant qui élève nos âmes dans l'adoration. Ce n'est pas un nouveau chant. J'ai 70 ans, donc il date de 70 ans au moins. Mais les paroles sont tellement sublimes.
J'aurais voulu souligner aussi d'autres textes de la parole de Dieu que je ne fais que dire par cœur devant vous. Le Seigneur vient de quitter la chambre haute et en ce chemin, se dirigeant vers Gethsémané,
où il va supplier le Père pour que cette coupe s'éloigne de lui. Dans ce jardin où il va rentrer dans l'angoisse profonde de son âme, au point que de la sueur va sortir de son front comme des grumeaux de sang, où il va rencontrer la trahison de Judas qui va le vendre au bourreau, aux soldats romains, ou alors qu'il rentre en prière et voit ses disciples dormir. Sur ce chemin qui le conduit à Gethsémané, puis de là vers le Sanhédrin, le tribunal romain, puis où il va sortir comme homme, c'est ce que Pilate dira, voici l'homme, un homme couvert, qui n'est autre que Dieu lui-même, couvert de crachats, couvert de dérision parce que on lui aura mis dans sa main un roseau, un homme qui n'est autre que le Fils de Dieu, lacéré par de larges et profonds sillons que les lanières des fouets romains ont tracés dans son dos. Et on pourrait énumérer cette couronne d'épines sur ce chemin. Le Seigneur prie le Père. Et voici ce qu'il dit. Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue que l'œuvre parfaite pour la rédemption de ses pécheurs soit accomplie. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Comme on l'a dit tantôt, pouvons-nous imaginer que si le Seigneur était comme à l'appel du peuple quand il le voyait sur la croix, descendre de la croix, nous croyons en toi, que serait-il advenu de la gloire de Dieu si le Fils éternel, en tant qu'homme, soit descendu de la croix, le déshonneur de Dieu aurait été parfait. Le déshonneur. Il fallait que le Fils de Dieu, devenu homme, en tant qu'homme, satisfasse pleinement l'amour et la justice de Dieu pour manifester son pardon et sa grâce. Il fallait que la croix s'adresse pour que la gloire de Dieu soit révélée. Et le Seigneur de continuer, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Un peu plus loin, Père, je t'ai glorifié. J'ai achevé. Et en cela, le fait d'achever l'œuvre, il a glorifié le Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Bien-aimé, il y a la gloire du Fils de l'homme que nous allons partager parce que nous serons faits semblables à lui. Tel il est, tel nous serons. Mais il y a une gloire que nous verrons qui est unique à Dieu même. C'est la gloire de sa création, elle lui appartient. La gloire de la rédemption, elle lui appartient. Et la gloire que le Fils de l'homme a acquis en souffrant pour l'Église, pour chacun de nous, vient s'ajouter à la gloire du Fils unique du Père. C'est cette gloire, bien-aimée, du Fils unique du Père que nous allons voir. Quant à celle du Fils de l'homme, nous la partagerons. Quelle gloire pour le Seigneur lorsque il verra son épouse à ses côtés, sainte, pure, irrépréhensible. Moi, pauvre pécheur, inclus dans l'Église par grâce, destiné à la gloire. Voilà, j'aurais voulu, parce qu'il y a aussi une question dans le ciel, je vous soumets quoi, hein. Ça s'ouvre aussi dans le psaume 40 et Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 6, dans une vision que Ésaïe voit de la gloire du Seigneur, et la question est posée, mais qui enverrai-je? Et le Fils te dit, Seigneur, envoie-moi. Et il est venu jusqu'à nous. Mais voilà, je vous le laisse à votre réflexion. Conclusion. Nous avons lu en débutant que c'était le Fils de Dieu qui était donné sous l'apparence d'un homme, d'un enfant qui est né. Nous avons lu que la domination reposera sur son épaule. Oh, j'avais voulu parler de cela aussi. Est-ce que vous vous rendez compte que la domination, tout subsiste par la puissance du Fils de Dieu? Tout a été créé par lui et pour lui, et tout subsiste par lui. Et tout repose sur son épaule. Réfléchissez, vous les brebis du bon berger, sur combien d'épaules il vous porte. Sur ses épaules. Pour montrer l'importance que vous avez à ses yeux. On l'appellera admirable, merveilleux. Merveilleux en toutes ses œuvres. Dieu puissant, pour nous sauver, nous ressusciter, pour nous donner la vie. Père éternel, parce qu'il nous révèle le Père. Prince de la paix, parce qu'il nous réconcilie avec son Père. Question. Connais-tu le Fils éternel du Père? Peux-tu raconter à ton Père céleste les gloires de son Fils? Nous en sommes bien-aimés sur la terre les dépositaires. 2 Corinthiens chapitre 3, je le cite, et nous qui contemplons la face de Christ, obscurément, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit, qui est puissance de Dieu pour nous transformer. Est-ce que cette contemplation du Fils glorieux transforme nos vies? Les disciples quittant Jérusalem étaient découragés et deux se retrouvent sur le chemin d'Emmaüs. Et puis il y a un troisième monsieur qui vient les côtoyer. Que fait-il? Que s'est-il passé? Quoi, tu ne sais pas? Que disent les disciples? Et commençant par Moïse et les prophètes, Jésus leur expliqua tout ce qui le concernait. Tout. Il a raconté les gloires de son Père et ses gloires à lui. Tout ce qui le concernait. Résultat des disciples, quand ils arrivent dans la maison, reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Et qu'est-ce qu'ils disent aux disciples? Et ils se disent l'un à l'autre, c'est ce que nous devons faire quand nous nous retrouvons ensemble, c'est de nous dire l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque le Seigneur nous parlait de cette manière? Notre cœur bien-aimé doit vibrer, doit se réchauffer au contact du Fils éternel de Dieu. Nous devons le contempler, rayonner de joie. Et je termine par la lecture d'1 Corinthiens chapitre 4. Voilà, je lis cela dans ma Bible. Ainsi, j'ai pris 2 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens chapitre 4. Désolé. Ah, ça c'est pour me dire que je dois arrêter. C'est tout juste, hein? Mais, voilà ce que Paul dit. Ainsi, 1 Corinthiens chapitre 4. Ainsi, bien-aimés, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et comme l'apôtre Paul dira à son enfant Timothée, le mystère de piété est grand. Dieu manifesté en chair, vu par les anges, vu parmi les gentils, vu parmi les païens, pour nous apporter la grâce de Dieu. Nous sommes donc, individuellement et en tant qu'Église du Seigneur, appelés à être des dispensateurs de ce mystère profond de l'amour de Dieu. Et Paul de continue en disant, du reste, ce qu'on attend de l'Église, ce qu'on attend de ceux qui portent le nom de chrétiens, c'est que chacun des dispensateurs soit trouvé fidèle. Nous devons garder pures nos pensées, même si nous ne comprenons pas le mystère profond de l'amour de Dieu, nos pensées doivent rester pures. Seigneur, je ne comprends pas, mais ce que je sais m'amène à t'adorer. Elles doivent rester inaltérées, l'Évangile non frelaté. Prenons conscience que l'administration nous est confiée. Et comme nous l'avons lu, ce qui est requis d'un administrateur, c'est qu'il soit fidèle. C'est qu'il maintienne dans sa vie comme un autel sur lequel des paroles peuvent être placées, une vie sainte, sanctifiée. Nous sommes appelés à maintenir la gloire du Fils éternel de Dieu pour rendre témoignage à ce monde. On a dit qu'il portait le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ce que je nous souhaite dans le témoignage que nous avons à rendre ici-bas. Aujourd'hui, Dieu habite par son esprit dans l'Église. Dieu habite dans nos cœurs par son esprit. Que nous soyons bien-aimés les dispensateurs pour que tout notre être, corps, âme et esprit, rende gloire à notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur notre Dieu, il y a tellement de choses qui nous sont révélées dans ta parole et que malheureusement, avec nos propres pensées, nous ne parvenons pas à comprendre. Et pourtant, il s'agit de ton amour envers nous. Et nous voulons t'adorer pour ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, pour le don suprême de ton Fils bien-aimé, pour cet anéantissement. Toi, le Fils éternel, tu n'as pas regardé, comme le dit ta parole, comme un objet à la vie, comme une revendication suprême, ton droit, ton égalité avec Dieu. Mais tu t'es abaissé, tu t'es anéanti. Tu as été obéissant. Bien que fils, tu as appris l'obéissance parce que tu acceptais d'être homme par les choses que tu as souffertes. Seigneur, nous nous prosternons devant toi pour ton amour qui est sans mesure. L'apôtre Paul a essayé de le cerner. Il en concluait qu'il n'avait ni hauteur, ni largeur, ni profondeur, ni hauteur. Que c'était l'amour insondable de Dieu. Alors, Père, merci de déverser ton amour dans nos cœurs par ton esprit. Merci de travailler dans nos cœurs pour que nos vies entières te glorifie. Et nous te le demandons, Père, dans l'attente du retour de ton Fils bien-aimé, afin que dans ce monde de ténèbres, pervers et corrompus, nous soyons des lumières de ce mystère de Dieu, des dispensateurs, fidèles, justes, veillants, priants, ne nous laissons pas entraîner à ces courants de ce monde, mais ayant des pensées rendues captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est ce que je te demande, Père, pour chacun de nous, à la seule gloire de ton nom. Amen. J'avais proposé